Attends, hé, regarde bien, ça va t'amuser. Figitus, figitus, ombre capot.
Prenez une pincée d'infos anti-autoritaires.
On vous demande toute votre attention.
Une pincée de nouvelles de lutte.
Mais on serait de taille à lutter.
Un peu de zat.
On ne veut pas que du ciel descende des cendres de mort et de fer.
Un peu de grève.
Pilote sur ton crève, de faim, de froid, de tout. Autour faire la grève.
Du gaz de schiste.
Exploitation de gisements de gaz de schiste.
Du logement.
Toi,
du féminisme. Bon, bref, secouez le tout, transvasez dans une bouteille, bourrez-y un torchon imbibé d'essence et jetez-y en direction des forces oppressives.
Canu Info du vendredi.
Avec les membres du FMI et de l'Union européenne, accord sur un nouveau plan d'austérité sur 5 ans.
Et ne veulent entendre parler d'aucun consensus.
Alors, on a demandé de marquer de sport en grève. On aura pu rajouter d'autres termes, hein, comme ras-le-bol de la pression, les menaces.
Que ce qui est affolant, c'est qu'ils sont prêts à dépenser des sommes astronomiques pour entraver notre grève, tout simplement.
Ceux qui appellent,
Bonsoir, il est 19h et quelques brouettes sur Radio Canu, la plus rebelle des radios, c'est le Canu Info du vendredi, on est toujours confinés, on espère que c'est le dernier Canu Info du vendredi sous régime de confinement, mais en attendant, ce soir, on a pas mal de choses à vous raconter, alors on n'en parlera pas directement, mais faut savoir que la lutte continue au Vinatier, vous pouvez notamment suivre ça sur rebellion.info. Nous, on a un programme relativement court, mais relativement dense ce soir. On commencera dans la rubrique locale par le témoignage d'une professeure des écoles à 3 jours du déconfinement et alors que les annonces un petit peu contradictoires de l'éducation nationale se succèdent. Dans la traditionnelle rubrique nucléaire du Canu Info, il sera question de deux choses. D'abord, un accident routier dans le transport de matériel radioactif et puis des tapis de sol contaminés dans des centrales nucléaires. On continuera en passant à la rubrique internationale où on vous parlera de la grève des loyers qui a cours actuellement aux États-Unis. On finira avec un fort court agenda dans ces conditions confinées. Et puis on finira par le traditionnel ACAB du Canu Info du vendredi. On espère que tout va bien chez vous. C'est bientôt la fin du confinement. On vous souhaite une bonne émission.
Reportage sur le rassemblement qui a eu lieu à Lyon cette semaine.
Du Rhône de la région qui s'appelle Stéphane Boulay.
En région lyonnaise, plus précisément à Pierre-Bénite.
Pour savoir où est-ce qu'on en est, la lutte des instits à Voix-en-Velin.
Petit reportage sur la grève du personnel.
On a des interjoints
sur le rassemblement
pour le
Rhône.
Canu Info du vendredi.
Rubrique locale.
Bonjour, je m'appelle Marine, je suis enseignante, professeure des écoles, dans une école en REP+, dans la banlieue lyonnaise. Et ça fait 7 ans que je travaille dans cette école, dans une classe de CPCE1, qu'on appelle cycle 2. Alors le confinement... Je dirais que la première chose qui domine, c'est l'urgence dans laquelle il a été mis en place, en tout cas pour nous à l'école. On a eu cette annonce de la fermeture des écoles et très vite, il a fallu trouver des solutions pour que les enfants partent avec deux, trois choses à faire à la maison. Pas tellement pour le contenu de ce qu'ils allaient faire, mais pour les rassurer, pour qu'ils sentent qu'on les accompagne. Presque comme si cette pochette avec des activités à l'intérieur, c'était un petit peu de l'école qu'ils emmenaient avec eux, juste pour se rassurer que l'école est encore là. Et puis ensuite, on s'est retrouvés un peu sidérés, seuls. Tout de suite, on nous a proposé des liens vers le site du CNED, vers des ressources qui existaient déjà avant et qui étaient faites pour l'école à distance, pour les familles qu'ils choisissaient. Là, c'était pas un choix et on nous envoyait vers ce type de pédagogie qui est en fait une pédagogie ultra-scolaire, individuelle, où il n'y a pas de lien, où c'est des batteries d'exercices qui n'ont pas forcément de sens avec la vie. Nous, on a choisi de ne pas faire ça, et ça, je suis quand même très heureuse qu'on ait réussi à faire ce choix avant et à ne pas céder sur ce point-là à l'urgence d'aller vite, vite vers les ressources qu'on nous proposait. Les seules ressources qu'on nous proposait, c'était ça. Alors que c'est l'inverse qu'on pratique à l'école tous les jours. On pratique une pédagogie où le lien a une place fondamentale, où le rapport à la vie a une place fondamentale, où le collectif, la coopération, le fait d'expérimenter ensemble, de construire des savoirs ensemble, de tâtonner. Voilà, là, c'était l'inverse tout d'un coup. On s'est retrouvés devant l'impossibilité de faire ce qu'on a l'habitude de faire. Et ce qu'on a choisi de faire, parce que ça a été pensé, c'est des vrais choix politiques, cette pédagogie. Et on a quand même réussi à continuer à travailler en équipe, à partager des supports. Et tout ça, il a fallu créer des espaces de stockage numérique pour ce qu'on partageait. Il a fallu créer des rituels. Essayer d'envoyer des choses compréhensibles, pas trop dures, avec pas trop d'écrit, si possible, parce qu'il y a des familles qui n'ont pas accès à l'écrit, qui ne savent pas lire ou dont la langue française n'est pas leur langue. Mais en même temps, il fallait quand même que ce soit compréhensible, avec des consignes claires. Et en fait, le constat, c'est que c'est pas possible et qu'on n'a pas réussi. On a fait au mieux, on a sûrement fait au moins pire, mais c'était pas l'école. Et puis, suite à ça, moi, j'ai ressenti vraiment petit à petit une perte de sens totale de ce que je faisais. Une perte de sens à continuer à ritualiser ces envois chaque semaine pour que les enfants aient des activités. Je dis même pas du travail parce qu'on n'a pas eu de retour ou très peu. Et que je pense qu'il faut pas se faire croire que c'était de l'école et du travail. C'était des activités qu'on envoyait pour que les enfants et les parents et des repères aussi, pour que le rituel qui nous a fait du bien à nous, ça puisse leur faire du bien à eux aussi. En tout cas, on a projeté ça, on a supposé que c'était important. À cette perte de sens, pour moi, c'est ajouté un sentiment d'isolement dans cette manière d'être en lien avec les familles et avec l'école, et un sentiment d'impuissance. Et ça a été vraiment difficile à vivre, et je l'ai partagé avec des collègues qui ont senti la même chose, perte de sens, sentiment d'isolement, sentiment d'impuissance. Impuissance parce que on nous a empêchés de faire notre métier, l'essence de notre métier, on ne pouvait plus le faire. Parce qu'en étant en lien avec des familles dont on connaît pour certaines la grande précarité, eh bien, on savait que c'était très dur, on pouvait imaginer leurs conditions de vie pendant ce confinement. Et ce confinement, en fait, on l'a formulé comme ça, comme un mensonge. un premier mensonge quand le gouvernement a dit qu'on était prêt à fermer les écoles et à faire l'école à distance. Donc ça, c'est un mensonge, le premier. C'est pas vrai qu'on était prêt. On a dû tout inventer nous-mêmes. Tout d'un coup, l'institution nous a fait confiance, alors que depuis des mois et même des années, on a des revendications, on alerte sur les conditions de l'école, et notamment en éducation prioritaire, on alerte sur les libertés pédagogiques, les libertés d'enseigner qui se restreignent, on alerte sur la hiérarchie qui est de plus en plus oppressante, sur les menaces, sur les injonctions, sur la surcharge de travail, enfin... Il y a depuis plusieurs années, on n'arrête pas d'alerter, jamais on nous entend, on nous méprise, on ne nous reçoit pas en entretien. Quand on demande des entretiens avec la hiérarchie, elle refuse souvent de nous rencontrer. Enfin, il y a un mépris et tout d'un coup, notre parole qui n'est pas écoutée d'habitude, ah bah là, elle n'est pas plus écoutée d'ailleurs, mais on nous fait confiance pour inventer. On nous fait confiance pour gérer la situation en disant « nous sommes prêts, on a confiance dans l'engagement des enseignants ». Il y a eu un autre mensonge, c'était celui de la continuité, puisqu'on nous a donné l'injonction de faire la continuité pédagogique. Donc pour nous, il n'y a pas eu de continuité, c'est clair, c'était un mensonge entier. Il y a eu une discontinuité parce que, en fait, ce qu'on a envoyé aux familles, c'était pas le travail de l'école. Et ça veut pas dire qu'on peut pas apprendre à la maison. Mais c'est différent. Et nous, on sait pas faire l'école à la maison. Travailler en cours individuel, moi, je ne sais pas faire. Et en plus, c'est pas du tout ce qui me porte dans ce métier. Ce qui me porte, c'est le collectif. C'est construire ensemble... une petite société. On sait que ça a été dur pour eux, et moi j'irais même au-delà, je pense que les enfants dans cette situation ont été privés de leurs droits fondamentaux, un peu comme nous, mais je pense en plus fort, le droit de circuler, le droit de se rassembler, d'être en sécurité, d'être en lien avec les autres, d'être entendu. Bah pour moi, ils n'ont pas été pris en compte, ces droits de l'enfant. Ce que je trouve incroyable, c'est que les écoles ont été les premiers endroits qui ont été fermés. C'est les premiers qui vont rouvrir. Donc là, moi, j'ai du mal à comprendre la logique. Et en fait, les enfants, ils sont pas tellement présent dans les débats, finalement. Je crois pas que l'État se soit adressé aux enfants, par exemple, pour expliquer ce qui se passe. Je crois pas que... Oui, qu'il y ait une communication pensée pour eux. Alors, ils se débrouillent, je pense, pour essayer de construire du sens dans ce qu'ils perçoivent et dans les informations qu'ils reçoivent. Quand les parents peuvent leur expliquer, bah, c'est super, mais je suis pas sûre que ce soit le cas de tous les enfants, d'avoir eu des explications, d'avoir été rassurés. Dans cette reprise, et même dans le confinement, je pense que c'est parmi les premières victimes de tout ça, et je trouve qu'on en parle tellement peu. On est dans le fonctionnement, on est dans faire... Mais je trouve qu'on a oublié ces humains qui ont autant de droits que les autres et qui se retrouvent isolés sans avoir les moyens d'action des adultes. Alors là, on est à la veille du déconfinement. L'ouverture des écoles a été annoncée et on a reçu un protocole sanitaire pour la réouverture des écoles qui fait presque 60 pages, plus de 60 pages. On sait que c'est infaisable, enfin une distanciation de 1 mètre entre les enfants dans la cour de récréation et dans la classe et partout. Interdiction de partager des objets, ça veut dire fermer les coins jeux, fermer les coins bibliothèques, mettre des tables individuelles où le travail des enfants sera préparé à l'avance. Interdiction de s'approcher de ses camarades, de partager le travail avec l'enseignant, puisque on peut pas se partager une feuille, parce que s'il y a le virus dessus, il se transmet. Passage aux toilettes régulier pour se laver les mains avec une distance de sécurité. Ça n'a pas de sens. C'est infaisable. Il y a une absurdité dans ce protocole. Donc on sait qu'on ne peut pas dire non plus que ce sera l'école. Ce n'est pas l'école qui va reprendre. Et c'est encore une sorte de mensonge pour moi. C'est que l'école, elle reprendra quand ce sera redevenu un lieu sécurisant, où c'est possible d'être en interaction avec les autres, où c'est possible de vivre du collectif. Quand elle sera ouverte à toutes et tous, là, on pourra dire que l'école aura repris. On a l'impression qu'on a délégué l'organisation de cette réouverture des écoles aux mairies. Et franchement, on se sent un peu abandonné par notre hiérarchie là, qui a mis beaucoup de temps à nous donner des informations. On a su cette semaine, on a eu des informations, on a dû contacter les familles, faire des sondages pour savoir qui allait remettre son enfant à l'école. Tout est fait dans l'urgence. Et nous, on se prépare à participer de nouveau à quelque chose qui, encore une fois, n'a pas de sens. Les écoles. Alors nous, les enseignants, on se retrouve dans un dilemme parce que on pense que c'est nécessaire que l'école le reprenne, mais pas dans ces conditions. En fait, avec l'obsession sanitaire qui a été omniprésente depuis le début, on n'a plus parlé de pédagogie. Même nous, on s'est quasiment plus autorisé à avoir des exigences pédagogiques. On s'est dit, il n'y a pas de continuité, ne soyons pas dupes, il y a une perte, il y a un deuil à faire pour un temps, sur notre manière de faire l'école. Mais on n'a plus parlé de pédagogie, c'est comme si c'était plus possible, on pouvait plus être pédagogue pendant cette période. Et bien en fait, si, on peut être pédagogue pendant cette période, parce que c'est que des choix politiques qui ont été faits et on aurait pu en faire d'autres. Et notre peur, c'est la peur que les choses s'installent plus longtemps que pendant cette crise, parce que, par exemple, les environnements numériques de travail, le fait de partager de manière numérique le travail avec les familles en permanence, le fait de confiner des données scolaires dans des dossiers numériques qui suivent les enfants, tout ça, c'est des choses qui existaient déjà avant et vers ce vers quoi on avait envie de nous faire aller. Et contre lequel on a lutté jusqu'à maintenant en présentiel. Mine de rien, ça a ouvert des portes vers des manières d'enseigner qui peut-être existaient un peu, mais pas à ce point-là, et qui vont dans le sens d'une école efficace, 100% réussite, parce que c'est ça les termes qui sont utilisés pour parler de l'école. Donc oui, on craint la mise à distance des uns par rapport aux autres, on craint des protocoles sanitaires qu'on nous impose, qui sont pour nous incompatibles avec le bien-être des enfants, avec les apprentissages, avec le fait d'enseigner. On craint les injonctions aux pédagogies transmissives. On craint qu'il y ait une sorte de méprise sur le sens de notre retour à l'école. On craint que ce soit pris comme l'adhésion à un système qu'on refuse, c'est pas parce qu'on trouve que c'est nécessaire que l'école reprenne qu'on est d'accord avec la manière dont elle reprend. école, c'est d'abord un projet de société. C'est pas juste un endroit où on garde les enfants. Donc il y a des choix pédagogiques, il y a des manières de fonctionner qui veulent dire quelque chose politiquement, qui veulent dire vraiment quelque chose. Et depuis pas mal d'années, on a l'impression que en fait l'école c'est juste un pion, une variable d'ajustement dans le système économique, dans le système capitaliste, pour on peut supprimer des postes, faire des économies, restructurer les choses pour que ce soit plus efficace, pour avoir plus de contrôle. Et en fait, pour former aussi les futurs citoyens qui rentreraient dans le moule du système capitaliste. Et ça fait des années qu'on se bat contre des réformes qui vont toutes dans ce sens-là. Il y a eu la mise en place des CP, des CE1 à 12. Ça a quand même abouti à des suppressions de moyens, à une ingérence sur la pédagogie, sur l'organisation des écoles. Tout ça, ça a eu des conséquences qui ont restreint les libertés pédagogiques et qui font de l'école plutôt un endroit à organiser qu'un endroit à penser. On s'est battu l'année dernière contre les réformes Blanquer qui vont exactement dans ce sens. On s'est battu cette année contre la réforme des retraites qui va également dans ce sens. Le déconfinement va dans le même sens toujours de cette politique-là, puisque la seule raison valable d'ouvrir les écoles, c'est la reprise économique. Alors, je pense qu'il faut qu'on se batte contre ça, qu'on se batte contre les mensonges qui ont été faits pendant cette période de crise par rapport à l'école. Il y a des effets d'annonce en permanence. On annonce un protocole drastique qui est censé rassurer tout le monde, mais en fait, il a l'effet inverse, puisque tout le monde sait que ça va être infaisable. Donc, nous, on est des pions là-dedans, les enseignants sont des pions dans ce fonctionnement, et je pense qu'on peut refuser d'être des pions et continuer à se battre. C'est pas si évident de refuser d'aller à l'école. Il y a des outils qui permettent de s'opposer à ça, mais pour l'instant, il nous manque le collectif. Je pense qu'on a besoin d'abord de se retrouver pour imaginer des actions communes possibles et imaginer un positionnement collectif. Parce que jusqu'à maintenant, le fait de se retrouver tout seul à gérer cette crise, ça a complètement inhibé la possibilité de lutter. Et donc je pense que le premier pas, c'est d'abord de se retrouver. Et puis ensuite, je pense qu'il va être vraiment plus que nécessaire de continuer les luttes qui ont déjà commencé avant et qui ne peuvent pas s'arrêter avec cette crise.
La main au-dessus des yeux comme la visière d'une casquette. J'observe l'horizon avec raison, je m'inquiète. Marx a eu la vision, a raison, tout s'achète. Ça suffit plus la voiture, la maison ni l'assiette. On peut vendre du vent, regarde les éoliennes. Les banques engrangent l'oseille chaque zéro millième. Une mort états-unienne, CIA requiem. Au Chili, en série, en CI, en Syrie, VHL, en Libye, la Chianli en béchamel. Naïf quand j'étais petit, je rêvais devant Disney Channel. Maintenant on pleure devant les infos, on en redemande comme des nymphos. En moi se joue une lutte entre un agneau et un faux. Voir rouge au pays des bleus, donc ma colère est mauve. Chevillé à ma condition, à jamais un salaud de pauvre. Kamikaze, jump, jump. Fin des temps Kali Yuga, l'être humain dans l'entonnoir. Aspiré dans le grand trou noir, des petits enfants font le grand trottoir. Un grand foutoir pour un petit foulard. Les états disent qu'est-ce que tu fous là. Barrez-vous de là, les bambous là. Droit dans son petit costard. Une petite toile, le bab tout slash. Dans les squads, les négros se cachent. Par la fenêtre s'échappe le nuage. Et de rouge le sol se tache. Des viols d'enfants, des marées noires. Les Janjaweed, roi du noir. Les usines pètent, les suppures comme des vésicules de pute. Tout le monde regarde, personne dit rien. C'est comme pour les films de cul. Des marées blanches dans les bouches et la graisse va dans les ventes. Les bénévoles se dépensent pour payer nos bonnes consciences. Puis la bonne concordance des temps. Nos enfants deviennent mutants. La mort de l'art, la mort du vent se prépare les océans. La fin du rêve, on nous téléguide. Les ventres pleins se nourrit de vide. Les cœurs sont petits comme des raisins secs. Une parfaite colonie d'insectes. Les cœurs serrés dans des corsets et les armes écartées au forceps. On pleure devant les infos, hors de monde comme des nymphos. En moi se joue une lutte entre un agneau et un faux. Voir rouge au pays des bleus. Donc ma colère est mauve, cheville à ma condition, à jamais un salaud de pauvre. Kamikaze, jump, 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 jump. Kamikaze, jump, 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 jump. Dans ta petite coquille, ta vie de pacotille. Tu n'es pas concret, tu n'as pas compris. Tu veux que croquer, toi tu veux qu'on brille. Tu veux que qu'on grille comme la nicotine. Tu veux pas qu'on prie, tu veux pas qu'on trie. Tu veux pas qu'on crie, tu veux pas qu'on vive. Tu veux pas qu'on kiffe, toi tu veux qu'on fuit. Qu'on serre nos cœurs comme des fruits confits. Toi tu veux qu'on te suive, toi tu veux qu'on trime. Dans ta vie de casting, ta vie d'actrice. Ta vie fantasme, pas fantastique. Ta vie fastoche, fantoche, factice. Ta vie bachiche, fastoche, plastique. Ta vie analogue, ta vie catalogue. Ta vie monologue, monochrome, monocore. Ta vie pasteurisée, masterisée, théorisée. Ta vie terrorisée, motorisée, autorisée. Où l'horizon est régi par les rusées. Ta vie analysée, paralysée. À peine déjà née, tu vas pas y arriver. Trop de matériel, trop de babioles. Trop d'oseille et trop de bagnoles. Trop de port d'armes, trop de portables. Trop de palabres, pas assez d'armes. Trop de bavards, pas assez d'art. Trop de palpables, pas assez de rêves. Trop d'artificiels, ça manque de ciel. On pleure devant les infos, hors de monde comme des nymphos. En moi se joue une lutte entre un agneau et un faux. Voir rouge au pays des bleus. Donc ma colère est mauve. Chevillé à ma condition, à jamais un sale pauvre.
Canu Info du vendredi.
Car tu m'es cher, je ne compte pas, je ne compte plus. Comme tu m'éclaires au nucléaire, j'ai le ciel bleu. Tu me ramènes quand je déraille un jour sur deux.
Radio Canu 102.2.
Aujourd'hui, dans la rubrique nucléaire, on va vous parler de deux infos sorties tout récemment, à savoir un accident de la route et des tapis de sol, le tout radioactif évidemment.
Qui sème le vent, récolte l'atomique.
Alors, dans la série, il n'y a pas que dans la production d'électricité qu'il y a des trucs nucléaires, on va commencer par vous parler transport. On vous en a touché deux mots la semaine dernière, la radioactivité est très présente dans le domaine médical et dans l'industrie en général, y compris dans des domaines auxquels on ne pense pas souvent, comme par exemple dans le BTP et sur les chantiers. Détection de plomb, vérification de soudure, il y a en fait plein d'instruments qui ont à l'intérieur une source radioactive, comme par exemple les gramagraphes.
C'est quoi tous ces trucs qui clignotent ?
Qui servent justement à examiner les soudures. Et qui dit utilisation diverses et variées, dit transport obligé. Des transports de matières radioactives, et il y en a tout le temps. Là, on ne vous parle pas des fûts de déchets, de convois de train ou de plutonium envoyés par camions blindés d'usine en usine pour faire le combustible nucléaire des centrales d'EDF. Non, là, on vous parle de voitures banales sur la route, tous les jours. Des voitures qui transportent donc des trucs radioactifs, soit pour le médical, soit des outils utilisés sur les chantiers. Et qui dit transport routier dit risque d'accident. Loi de Murphy oblige, tout ce qui peut arriver un jour arrivera, et lundi, une voiture transportant 2 grammes à graphe, des instruments qui ont à l'intérieur des substances très fortement radioactives, a eu un accident sur l'autoroute A13 dans les Yvelines à 60 km de Paris. Le véhicule s'est mangé la rambarde de sécurité, donc autant dire que le choc a dû être sacrément violent. D'ailleurs, le conducteur a été blessé. Alors heureusement, la voiture n'a pas pris feu. Et les emballages dans lesquels étaient les grammes à graphe ont apparemment résisté au choc. Donc l'histoire se finit pas trop mal, en tout cas ça aurait pu être vachement pire. Mais donc moralité, faites gaffe sur la route, pensez au transport de trucs nucléaires et dites-vous bien qu'il n'y aura pas de méga panneau warning clignotant pour vous indiquer que le chargement est irradiant. Voilà, ça fait une raison de plus d'être prudent au volant.
Vous venez de mourir pour la troisième fois. Perte d'adhérence aggravée par des pneus trop étroits.
Autre petite info, sortie il y a peu qui vaut le détour, et pour revenir quand même à ce qu'il se passe dans nos chères centrales nucléaires, donc cette fois dans la série « Les travailleurs ont vraiment la belle vie ». On a appris, par presque un coup de bol faut dire, que tous les tapis de sol dans les vestiaires du personnel étaient radioactifs, alors même que ces vestiaires ne sont pas dans les zones dites nucléaires des bâtiments. Alors, on ne sait pas précisément combien il y a de vestiaires pour le personnel dans chaque centrale, mais ce qu'on sait, c'est que sur les 19 centrales nucléaires françaises, toutes sont concernées sauf deux. Alors, comment ça se fait que ça tombe maintenant ? En fait, c'est parti d'un contrôle de la propreté radiologique, comme on dit, des vestiaires à Chaux, donc une centrale dans l'Est, et à Golfech, qui est une centrale pas loin de Toulouse, à la fin du mois de février. Bim, les tapis de sol sont contaminés. Du coup, on vérifie dans toutes les centrales nucléaires d'EDF, et résultat, et dans 17 centrales, tous les tapis au sol dans les vestiaires du personnel sont radioactifs. Contamination diffuse de faible niveau, qu'ils disent. Sans d'ailleurs préciser exactement ce niveau. Comment ça a pu se produire, alors que ces locaux où se changent les travailleurs sont hors zone nucléaire et que, soi-disant, tout est super bien contrôlé et confiné ? Eh bien, il semble que ce soit à la longue, avec le temps. Comme quoi, non, EDF, la radioactivité n'est pas parfaitement cloisonnée. Elle se répand et elle se disperse partout.
Ces petits points lumineux sont des bulles de radiation.
On ne sait pas combien de mètres carrés ça représente, aucune idée de la surface totale, mais tout a illico été remplacé et les tapis ont été jetés comme des déchets nucléaires. Comme quoi aussi, malgré ce que tu dis EDF, l'exposition à des faibles doses de rayons, eh ben ça compte. Sinon, tu ne te serais pas fait chier à changer des milliers de mètres de revêtement de sol dans 17 centrales nucléaires. Et alors comment ça se fait que ça n'a pas été vérifié avant, la propreté radiologique, comme on dit, dans les vestiaires des travailleurs ? Ça, on ne sait pas exactement. Semblerait que si, ça devait bien être un truc à contrôler régulièrement, mais que ça n'a pas été mis sur la liste des équipements à vérifier. Encore un super bel exemple de toute la considération que EDF porte aux travailleurs qui se tuent la santé dans ces usines. Et une illustration de plus du manque total de sérieux de l'exploitant nucléaire qui, a priori, n'est même pas capable de tenir ses listes à jour. Surtout quand il faut penser à l'humain et que ça peut faire perdre des profits. Et allez, une petite cerise sur le gâteau ? EDF a déclaré ça comme un événement significatif pour la radioprotection. Des milliers de travailleurs se changeaient sur des tapis imprégnés de poussière radioactive et se faisaient au passage irradier. Et ces poussières sont probablement pas restées toutes collées au tapis de sol. Donc significatif en termes de non-protection contre les radiations des personnes qui bossent dans ces installations. Mais EDF l'a classé au plus bas niveau de gravité. Du coup, pas de communication officielle en dehors de la déclaration qu'EDF a faite à l'autorité de sûreté nucléaire. Voilà comment l'industrie traite l'humain qui l'a fait tourner. Vraiment, le travail, c'est pas la santé. Alors, une proposition pour conclure ? Confinons les patrons. Au choix, dans des bagnoles chargées de trucs nucléaires ou dans des vestiaires radioactifs. On verra bien si ça change quelque chose d'inverser la posture.
course I'm a motherfucking conscious. The whole world right now is fucking bonkers. The internet is the brand new conqueror. So watch out for the motherfucking monsters. Yikes. The trolls are the taunters. Whoever controls the data got the answers. They the one that got the code to the launcher. And they be having dinner with the Pope and the mobsters. They know the cure for the cancer. Cure for the AIDS and they probably kill the Panthers. Put us in the cage, got us living like hamsters. Put us in the dark, but I got me a lantern. Open up my third eye, then I illuminate. Really got a bird eye view, wanna elevate. No Illuminati, baby, I'm God body. The rapture like Blondie, waking up zombies.
Wake up, sound the alarm. Revolution time has come. Wake up, sound the alarm. Tell the people here come the storm. Wake up, sound the alarm. Revolution time has come. Wake up, sound the alarm. Ring the alarm, ring 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 the alarm.
Wake up! A wise man said knowledge is king. Know thyself and you can do anything. Know thyself and you can shine like bling. Know thyself and you the king of the ring, huh? But they don't teach kids nothing. All they know is I'll pass sugar and they muffin. They don't know division, won't add to nothing. Send them off to prison when you know they did nothing.
He in the streets cause he always cutting. The teacher ain't teaching him nothing. All they do is stuffing him and stuffing him. Stuffing him and stuffing him and stuffing him. Stuffing him and stuffing him and stuffing him.
Stuffing him with stuff he can't use. So he sell crack, that's what he know to do.
His daddy was a hustler, so he hustled too. And that's why you see the little killer in the news.
It's kinda like they got us in a trap. It's kinda like they knowing how we act. I'll be like, fuck your fucking laboratory, I am not a rat. I am light, I am God, body wise is the fact.
Wake up, sound the alarm. Revolution time has come. Wake up, sound the alarm. Tell the people here come the storm. Wake up, sound the alarm. Revolution time has come. Wake up, sound the alarm. Ring the alarm, ring the alarm.
Française, français, la fatigue et la lassitude, redoutable, invisible, imprévisible. Vulnérable, j'ai vu des ratés. Le moment, soyons honnêtes, a révélé des failles, des insuffisances. Le gouvernement sera confiné dans les meilleurs délais et avec rigueur, dans un appartement exigu. C'est la condition pour ralentir encore davantage la propagation du virus et permettre à nos soignants de reconstituer leurs forces. Les lieux rassemblant nos policiers et nos gendarmes resteront en revanche fermés à ce stade, pour vous protéger, pour votre intérêt. Nous aurons, à partir du 11 mai, une organisation nouvelle pour réussir cette étape. Peut-on espérer entrevoir la fin définitive de l'État ? En toute franchise, en toute humilité, nous n'avons pas de réponse définitive à cela. Alors prenez soin de vous. Prenons soin les uns des autres. Vive l'hôpital public, unique la République, unique la France.
Canu Info du vendredi. International.
Rubrique. Aux États-Unis. Frappés par la crise économique et le chômage, des millions de personnes se retrouvent dans l'incapacité de payer leur loyer. De nombreuses associations demandent aujourd'hui leur suspension. Un peu partout dans le pays, des locataires viennent d'entamer une grève en ne payant plus depuis le 1er mai. La crise sociale est particulièrement importante aux États-Unis. La troisième semaine de mars est un exemple saisissant des répercussions de cette crise sur les travailleurs et travailleuses. Seulement sur cette semaine, ce sont pas moins de 3,3 millions de personnes qui ont déposé une demande de chômage. Et au 30 avril, on comptait déjà plus de 30 millions de chômeurs et de chômeuses supplémentaires. Fin mars, un plan de relance a été adopté par le gouvernement fédéral, comprenant un paiement unique de 1 200 dollars par habitants et habitantes, dont beaucoup n'ont toujours pas vu le moindre centime. Somme dérisoire qui ne permettait pas dans tous les cas pour une majorité de la population de régler leur loyer. Le loyer mensuel moyen d'un appartement ainsi, qui comprend juste une chambre à coucher à New York, était de 2 980 $ en 2019. Par ailleurs, les habitants et habitantes éligibles à cette aide sont seulement celles et ceux qui ont payé des impôts en 2018 ou en 2019, ce qui exclut les locataires les plus pauvres, les sans-abri et les millions de migrants et migrantes sans papier qui, déjà avant la crise du coronavirus, souffraient d'une grande précarité. Par ailleurs, cette aide est d'autant plus ridicule et dérisoire et dégueulasse quand on sait que dans le projet de loi comprenait également plus de 400 milliards de dollars pour le fonds de stabilisation d'échange, qui est une espèce de fonds de réserve d'urgence, dans le but d'accorder des prêts, non pas aux plus précaires des Américains, des Américaines, mais bien à Wall Street. Sea River, qui est une militante, même la porte-parole de Cancel Remnant, qui est une association du coup pour la défense des droits des locataires, nous disait:
nous n'avons pas besoin d'organiser une grève des loyers pour pouvoir dire que des millions de New-Yorkais ne paieront pas leur loyer le 1er mai.
En effet, de toute façon, la plupart des New-Yorkaises et New-Yorkais ne vont pas pouvoir payer leur loyer. Dès la première semaine d'avril, un tiers des locataires du pays, environ 13,4 millions de personnes, n'avaient pas payé leur loyer parce qu'ils et elles ne pouvaient pas. Il s'agit donc d'un mouvement d'organisation des précaires sous les mots d'ordre
« Vous ne pouvez pas payer ? Ne payez pas !»
dont le but est de faire pression sur les dirigeants de New York, mais également de façon plus large, d'établir un rapport de force. Les organisateurs et organisatrices appellent ainsi celles et ceux capables de payer leur loyer de mai de s'abstenir de le faire par solidarité avec celles et ceux qui en sont incapables. L'une des revendications centrales de cette campagne est la définition du logement comme droit universel, c'est-à-dire que nous ne devrions pas payer pour accéder à ce droit. Les revendications de cette initiative dépassent donc le cadre de l'état d'urgence sanitaire et souhaitent une refonte massive du droit au logement.
La grève des loyers est un appel à la dignité. Nous méritons tous un logement, quelle que soit la couleur de notre peau, notre situation financière ou notre culture.
Ce sont les mots de Donette Ledford, une immigrante sans papier, originaire de Jamaïque et membre du groupe New York Communities for Change. Dans certains quartiers de New York, le mouvement s'affiche en grand sur les immeubles. Des drapeaux et des pancartes sont accrochés aux fenêtres avec l'inscription
« Cancel rent, annuler les loyers ».
Cet appel a été repris en masse sur les réseaux sociaux. À New York, au moins 400 familles vivant dans les immeubles contenant chacun plus de 1500 logements coordonnent des grèves de loyers à l'échelle de leur immeuble. De plus, il y a plus de 5000 personnes qui se sont engagées par le biais d'un engagement en ligne à refuser de payer leur loyer en 2020. Face à la pression, le gouverneur de l'État de New York a signé un moratoire pour suspendre les expulsions au moins jusqu'au mois de juin. Une mesure insuffisante pour beaucoup. En effet, si personne ne peut être expulsé aujourd'hui, le loyer n'est pas suspendu ni annulé. Et lorsque les tribunaux seront à nouveau ouverts, ce qui va finir par arriver, les gens seront donc expulsés à grande échelle. Pour l'instant, les autorités n'envisagent pas de suspendre les loyers, d'autant plus que les propriétaires disent craindre des conséquences d'une telle mesure sur eux et elles, les pauvres, et leur crédit immobilier. Pour l'instant, en France, malgré de nombreux appels, ces mouvements n'ont pas réussi à s'imposer. Mais espérons que cela nous donnera des idées.
Quoi maintenant ?
Devine, mon premier est une personne qui n'a pas mangé. Mon second est, oui, en russe. Et mon tout est un outil permettant d'associer des actions et des moments et d'organiser ainsi son temps. C'est...
L'agenda !
Et bah l'agenda ce soir, c'est surtout un peu le grand flou. Donc comme vous le savez, évidemment, c'est théoriquement la fin du confinement, en tout cas de cette première vague de confinement, le 11 mai, on va pouvoir en partie reprendre des activités normales et surtout éviter d'avoir à se balader avec des attestations qui justifient de tous nos faits et gestes et déplacements. En attendant, on va quand même rester en grande partie confiné chez nous ou pas trop bouger puisque on n'a toujours pas de traitement qui fonctionne réellement pour lutter contre le coronavirus. Donc il est probable que les activités, notamment militantes et sociales, elles repartent progressivement. Restez au contact, restez à l'écoute de Radio Canu. Rendez-vous sur votre site d'information locale préféré, rebellion.info, pour pas mal d'infos. Et puis évidemment, on vous laisse avec une nouvelle annonce pour une soirée sur Radio Canu. C'est samedi, ce samedi 9 mai à 20h.
Radio Canu.
Bonjour, je m'appelle Mathieu. Qu'est-ce que ça veut dire à câble ?
Radio Canu. Canu Info du vendredi.
Bonsoir Mathieu, merci beaucoup pour ton appel. Alors ce soir, ACAB, ça veut dire aider carrément l'approvisionnement des brigades de solidarité. Et on rappelle au passage que des brigades de solidarité à Lyon, il y en a au moins deux. Il y en a une du côté de Cusset, en fait, à Villeurbanne. Et puis il y en a une autre du côté du 1er arrondissement et de la Plume Noire, dans les pentes de la Croix-Rousse. Pour les trouver, pour venir filer un coup de main ou simplement des dons, en nature, donc de l'alimentation, des produits d'hygiène, etc., soit financier, et vous trouverez facilement les informations sur rebellion.info. Tout de suite, sur les ondes de Radio Canu, où la musique ne s'arrête jamais, c'est Noise Pollution, une émission spécialisée dans le tango. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une première émission du Canu Info post-déconfinement. D'ici là, il va faire beau ce week-end, vous allez sans doute quand même rester chez vous, mais profitez-en bien, portez-vous bien et à très bientôt. Ciao !